J'ai rappelé la dernière fois les deux propositions générales qui se dégagent des analyses conduites au cours des années précédentes et qui vont nous servir d'hypothèse conductrice pour notre enquête conclusive de cette année. Première proposition, la caractéristique fondamentale du moment présent est la radicalisation structurelle de la modernité consécutive à l'ultime tournant théologico-politique de la modernité qui se joue au cours des années 1970, tournant qui marque l'aboutissement du processus de sortie de la religion et qui libère le parachèvement de la structuration autonome sous son triple aspect politique, juridique et historique. Deuxième proposition, cette radicalisation structurelle de la modernité est le phénomène caché derrière ce que nous percevons confusément comme crise de la démocratie et qui ne se comprend pleinement que comme crise du régime mixte des modèles. Crise de l'articulation que politique, droit et histoire doivent trouver ensemble. L'hypothèse que je vais explorer et tâcher d'étayer est que la triple métamorphose structurelle du politique, du droit et de l'histoire qui s'est produite au cours des quatre dernières décennies a engendré spontanément une configuration d'ensemble déséquilibrée qui tourne le dos à l'autonomie véritable. L'autonomie structurelle, telle qu'elle est réalisée pour de bon ou en voie de réalisation dans le cadre européen, nous détourne de l'autonomie substantielle dont elle crée la possibilité. Voilà, à mon sens, ce qui fait le fond de ce que nous pouvons, à bon droit, appeler une crise de la démocratie, une grande crise. Nous reviendrons sur ce concept fatal et inévitable. Une grande crise qui nous permet accessoirement de repenser la nature et les conditions de la démocratie des modernes. Cette crise de la démocratie comme régime mixte n'est pas la première, mais la deuxième du genre. Point capital pour sa bonne intelligence. Elle est une sorte de réplique, un siècle après, de la grande crise qui a accompagné l'installation en bonne et due forme de la démocratie en Europe autour de 1900, avec la victoire laborieuse du suffrage universel et l'entrée dans l'ère des masses. Cette première grande crise qui se repère comme crise du libéralisme triomphant de la seconde moitié du XIXe siècle, cette première grande crise est à comprendre en son fond comme la première crise du régime mixte des modernes. L'histoire du XXe siècle européen aura été celle des manifestations de cette crise, dont les plus spectaculaires auront été les totalitarismes, mais l'histoire aussi du dépassement de cette crise. Deuxième volet, non moins important à enregistrer. Dépassement sous forme d'une transformation stabilisatrice qui a créé les démocraties libérales, sociales et représentatives dans lesquelles nous vivons. Sauf que ce dépassement a aussi créé les conditions d'une relance du processus de sortie de la religion dont la crise était née, relance qui a réouvert en grand, sous des traits entièrement inédits, le problème du régime mixte. Problème du régime mixte, il y a, en ce que la compatibilité des trois éléments de la structuration autonome ne va nullement de soi. Elle est intrinsèquement unilatérale en ce que chacun, elle est intrinsèquement problématique, pardon, en ce que chacun de ces éléments est source d'une vision unilatérale de l'existence collective. Chacun de ces éléments se veut une lecture complète et suffisante de la condition collective, incluant les autres et donc les excluant en tant que tels. Cet unilatéralisme a son théâtre dans ce que l'on peut appeler l'histoire classique de la modernité européenne, histoire du déploiement des éléments de la structuration autonome, où l'on voit se succéder un âge du politique gravitant autour de l'émergence de l'État dans son concept moderne, puis un âge du droit centré sur le dégagement du principe de légitimité que constituent les droits de l'individu et l'idée du contrat social qui en découle. Enfin, un âge de l'histoire axé sur l'autoproduction matérielle et intellectuelle de la communauté humaine dans la durée. Je souligne au passage qu'unilatéralisme ne signifie pas négation de l'existence des autres éléments, mais prétention de rendre compte des autres à partir de soi. Prétention de ramener les autres éléments à sa propre logique. L'unilatéralisme politique ne consiste pas à dire qu'il n'y a pas de droit et d'histoire, mais il consiste à dire que tout ce qui peut être formulé en fait de droit et d'histoire se ramène à la primauté du point de vue de l'État. Que le droit est ultimement ce dont l'État a besoin pour affirmer sa primauté, et que l'histoire n'est en dernier ressort que l'histoire de la confrontation des États. L'unilatéralisme juridique, de la même façon, consiste à poser que tout ce qui existe et doit exister en fait de politique sort du droit, et que l'histoire n'est en dernier ressort que la réalisation, l'histoire de la réalisation du droit. L'unilatéralisme historique, de son côté, affirme, lui, que le droit et la politique ne sont que des expressions de la dynamique du devenir. Ce devenir autoconstituant de l'humanité. Et cela tellement que dans les versions les plus radicales de l'universalisme, de l'unilatéralisme historique, l'élément social historique est expressément devoir finir par résorber le politique et le droit en son sein. Expression banale de cet unilatéralisme historique, la thèse marxiste, l'État est l'instrument de la domination de classe. La domination de classe étant elle le cœur du processus dynamique historique. La succession de ces unilatéralismes, avec le sentiment frappant chez les acteurs, chaque fois, de vivre une époque entièrement différente de la précédente et entièrement nouvelle, cette succession constitue l'histoire classique de l'Europe, à la fois structurellement et intellectuellement. 4 siècles, en gros, 1500-1900. Le problème du régime mixte ne se pose pas pendant cette période. Entendons qu'il ne se pose pas comme problème et n'est pas ressenti comme tel, même si dans les faits, ces éléments se mettent en place petit à petit, mais de manière souterraine, sans qu'on les voie. Ce n'est pas ainsi parce que le droit occupe le devant de la scène à l'époque des Lumières, que le politique n'en poursuit pas moins sa formation sous son couvert. Le débouché marquant va en être la décantation de la forme nation au moment de la Révolution française. Cette forme nation se présente sous les traits d'ailleurs d'un concept de droit. Concept de droit politique, la nation souveraine des citoyens. Mais elle est bien plus profondément le concept d'une forme politique qui l'associe à l'État, la forme État-nation. De la même façon, au XIXe siècle, sous couvert de l'histoire et de l'approfondissement de l'orientation historique, et grâce à eux, tant cette affirmation de l'État-nation que la formation de l'individu de droit se poursuivent. Mais la conviction des acteurs dominante est qu'à partir du point de vue de l'histoire, on a une raison suffisante et de l'État-nation et du droit des individus. C'est là qu'est l'unilatéralisme. Et c'est précisément cette formation souterraine qui se poursuit, qui fait surgir à un moment donné le problème de la compatibilité et de l'articulation de ces éléments. Il apparaît au grand jour autour de 1900 en mettant en crise la vision harmonique qui était celle du libéralisme classique, d'une saisie de l'ensemble à partir de la dynamique sociale historique. L'expression théorique la plus parlante de ce surgissement non conçu comme tel mais repérable du régime, du problème du régime mixte est fournie sans doute par la notion weberienne de polythéisme des valeurs. Elle donne la mesure du sentiment d'une division irréconciliable des esprits qui s'impose pour les observateurs lucides comme la vérité du moment. En effet, prenons Berlin 1900. Trois personnages typiques qui coexistent et se croisent dans la même ville. Un militaire prussien, évidemment conservateur, pour lequel la seule chose qui compte, c'est la vie et la mort du pays, telle qu'elle est destinée à se jouer sur les champs de bataille, avec tout ce que cela implique de priorité en matière de discipline collective, d'ordre social, de hiérarchie. À côté, un avocat d'affaires libéral pour lequel les repères constitutifs de la vie collective sont la liberté contractuelle, la recherche de la prospérité matérielle et les compromis nécessaires à la paix sociale. Troisième personnage, le militant ouvrier social-démocrate, qui rêve de révolution, qui déchiffre la vie collective en termes de rapport de force entre les classes, et pour lequel le seul but qui vaille est celui de l'émancipation du genre humain par la justice sociale. Entre ces trois personnages, la discordance et l'opposition des valeurs ultimes est telle qu'on peut avoir l'impression que la discussion n'est même pas possible, ce dont ils sont d'ailleurs chacun bien convaincus. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées ou plus subtiles, et ils ont de bonnes raisons, en fait, d'être sensibles aux arguments les uns des autres. Mais cela, il faudra plusieurs décennies pour le découvrir. En attendant, ce qui retient, c'est le spectacle, non plus de l'anarchie intellectuelle, comme pouvait dire Auguste Comte dans les années 1840, mais le spectacle de l'antagonisme irrémédiable des options fondamentales. Cela va donner, pour un bon moment, des démocraties de guerre civile froide, où chacun des grands partis ne rêve que d'élimination de ses adversaires. Ce dont, d'ailleurs, pour rester en Allemagne, la République de Weimar, après 1918, offrira une bonne illustration. Derrière cette guerre des dieux, il y a le problème de notre régime mixte. Le problème de la manière de tenir ou de nouer ensemble le politique, le droit et l'histoire, afin d'obtenir une unité collective suffisante pour rendre la collectivité gouvernable. Ce n'est pas en ces termes que le problème est vécu et compris par les acteurs, mais le caractère problématique de la forme collective, lui, est intensément éprouvé. C'est ce qui va faire la fortune des idéologies extrêmes, nationalisme radical à l'extrême droite et radicalité révolutionnaire à l'extrême gauche. L'audience qu'elle gagne peu à peu, et qui va trouver son débouché au lendemain de la Première Guerre mondiale, s'enracine dans un sentiment commun. Ça ne peut pas durer. Ces divisions, ces discordes, ces contradictions du présent relèvent d'un état pathologique de la société, et nécessairement transitoire. Il faut en sortir, il faut passer à autre chose, moyennant une rupture en règle avec le désordre établi. Il faut retrouver une forme d'unité collective, ou bien en restaurant une formule de l'unité collective éprouvée par la longueur des siècles chez les nationalistes, ou bien en instaurant une forme inédite de collectivité chez les révolutionnaires communistes. Ils ont un élément de diagnostic en commun. Une cible commune, même s'ils l'analysent différemment. Le renversement de l'ordre social existant passe, pour les uns et pour les autres, par l'abolition de la structure libérale de la société bourgeoise. Structure libérale marquée dont l'articulation centrale est la séparation de la société civile et de l'État. Pour les nationalistes conservateurs, c'est la cause du désordre social. Il faut revenir à une communauté organiquement soudée grâce au primat ordonnateur du politique. Pour les révolutionnaires communistes, la séparation de la société civile ancrée dans la propriété privée est la source de la division de la société en classes et le rouage crucial de l'exploitation capitaliste et de la domination bourgeoise. Il faut en sortir par l'appropriation collective des moyens de production qui créera les bases d'une société authentiquement unifiée qui pourra devenir de ce fait une société sans classe et sans État. Mais pour complètement comprendre cette conjoncture historique qui place le dépassement de la société libérale bourgeoise au premier plan des préoccupations générales, en tant que société transitoire et inviable dans la durée, il faut introduire un élément d'analyse supplémentaire. Ce caractère pathologique de la société bourgeoise, associé à ses divisions et à ses contradictions, est jugé implicitement à l'aune de l'unité religieuse. Il apparaît en regard de la forme hétéronome qui avait été effectivement celle de la totalité des sociétés du passé et qui est assimilée sur cette base à la forme de toute société possible, y compris par ceux qui veulent dépasser la société actuellement existante. Cette forme, nous l'avons vu, peut se résumer dans la formule de l'unité symbolique et spirituelle créée par la commune subordination à l'altérité surnaturelle. Le fait frappant de ce que j'appelais à l'instant l'histoire classique de l'Europe est que les unilatéralismes successifs de la phase classique de déploiement de la structuration autonome s'est écoulé sans effort dans cette forme hétéronome en promettant de la réaliser par ces moyens émergents de l'autonomie. L'unité par l'obéissance politique, l'unité par le droit et la mise en commun contractuelle des droits détenus par les individus sociétaires, l'unité enfin par l'harmonie créatrice des libertés et des intérêts au sein de la société de l'histoire. On peut dire à cet égard que l'histoire classique de l'Europe est guidée par un présupposé éminemment tranquillisant. L'autonomie a la même forme que l'hétéronomie. Cette tranquillité fondamentale, au-delà des luttes des deux principes qui agitent les esprits et les sociétés, sera à son apogée sous le libéralisme classique du XIXe siècle. Le progrès fait mieux que la tradition en matière d'unité de l'humanité dans le temps. La représentation fait mieux que la domination et l'obéissance en matière d'unité du peuple et du pouvoir. La science et la raison font mieux que la révélation en matière d'accord des esprits. C'est ce présupposé tranquillisant qui est mis à mal dans le moment 1900, en même temps qu'émerge notre polythéisme des valeurs. Non seulement politique, droit et histoire posent un problème de composition globale, mais en outre, ils se révèlent chacun à leur façon comme des vecteurs de séparation, de dissociation, de déliaison. C'est le sens des différentes crises entre lesquelles se diffracte la crise de crédibilité du libéralisme classique. Crise du progrès, crise de la science, crise de la représentation, et il y en a d'autres de moindre envergure. Au lieu, crise en ceci qu'au lieu d'unir les temps, l'expérience historique les désolidarise et rend problématique de tenir ensemble le passé, le présent et l'avenir. Au lieu de lier pouvoir et peuple, la représentation les rend étrangers l'un à l'autre. Loin d'aboutir à une vision unifiée et réconciliatrice de l'univers, la science le fait éclater en une multitude de points de vue qui s'ignorent les uns les autres. Et on peut poursuivre. Le droit délie et oppose les êtres. Le politique introduit une extériorité à l'intérieur même des communautés humaines. Et les voue à une guerre perpétuelle entre elles. Le seul que la structuration hétéronome avait fourni jusque-là au dégagement de la structuration autonome dans ses différentes dimensions, ce seul ferme qui garantissait une forme unitaire globale de l'être ensemble, ce sol ferme se dérobe en faisant surgir un monde humain écartelé et inviable à force de tension. Cela a proprement le vertige si frappant de ce moment 1900. Mais ce n'est qu'une des faces de la situation. Il y en a une autre. Cette unité perdue dans le présent s'offre à reconstituer dans le futur, moyennant rupture avec le présent, moyennant renversement de l'ordre social existant. L'unité hétéronome, aujourd'hui en voie de se perdre, peut être reconstituée demain. D'où la prime aux idéologies extrêmes. Elle s'alimente dans l'accréditation de la perspective révolutionnaire par les données de la configuration structurelle qui s'installe. Que ce soit une révolution nationale conservatrice à l'extrême droite ou une révolution sociale et en fait étatiste à l'extrême gauche. Car il y a une histoire de l'idée de révolution et de l'horizon révolutionnaire. Elle a changé plusieurs fois de sens et de contenu depuis la fin du XVIIIe siècle où elle arrive. Il y avait des révolutions avant, mais il n'y avait pas d'idée de révolution. L'idée de révolution, elle naît à la fin du XVIIIe siècle et elle va poursuivre ses métamorphoses jusqu'au sein du XXe siècle. En ce début du XXe siècle, elle acquiert les traits et la portée nouvelle sous lesquels nous allons la voir dominer le XXe siècle. C'est elle d'ailleurs qui va corrélativement donner ses traits et sa portée à la figure du militant politique. La figure de l'idée qu'acquiert à ce moment-là l'idée de révolution, c'est la révolution comme dépassement des divisions et des séparations du présent grâce à la reconstitution d'une unité collective du type de celle qu'assuraient les religieux, mais par des moyens purement séculiers. C'est que la structuration hétéronome ne s'est pas purement et simplement volatilisée. Elle a perdu ses expressions directes et manifestes, mais elle est passée dans l'implicite. Elle a conservé une emprise souterraine suffisamment puissante pour non seulement guider les esprits, mais pour modeler le fonctionnement collectif en le chargeant de cette potentialité d'unification par la révolution. Et plus particulièrement, en investissant le politique de cette puissance d'unité capable de mettre fin à l'antagonisme des classes, à l'extériorité du pouvoir par rapport au peuple et à la division des esprits. Cette configuration a deux faces, associant l'effacement explicite de l'unité hétéronome, qui fait apparaître un paysage de division collective, et sa prégnance implicite comme la promesse par excellence de l'avenir. Cette combinaison d'autonomie explicite et d'hétéronomie implicite définit proprement la conjoncture totalitaire. La guerre mondiale lui ouvre la porte en grand. Vous connaissez la suite. 1917, la révolution bolchévique. 1922, l'accession de Mussolini au pouvoir. 1933, l'arrivée de Hitler et des nazis au pouvoir en Allemagne. Sur la manière dont les choses se sont effectivement passées, je me permets de vous renvoyer à ce que j'en ai écrit. Y entrer plus avant nous engagerait dans une histoire compliquée qui nous détournerait de notre objet principal. Ce que je voulais juste rappeler dans ce propos à la fois récapitulatif et introductif, ce sont les conditions dans lesquelles notre problème du régime mixte arrive à l'ordre du jour. Des conditions pour le moins dramatiques qui ne vont évidemment pas aider à le reconnaître pour tel. Et comme ce problème du régime mixte est intimement lié par ailleurs à celui du dégagement de la structuration autonome du moule hétéronome, moule dans lequel elle est restée si longtemps prise, je voulais faire ressortir par la même occasion la difficulté qu'il y a à déchiffrer ce parcours du XXe siècle, où ce moule hétéronome passe en quelque sorte dans la clandestinité, ne joue plus que comme une latence cachée, mais une latence ô combien agissante. Car sans l'appel à ce facteur de l'ombre, des phénomènes aussi massifs que les totalitarismes restent rigoureusement inintelligibles. Voilà la difficulté de lire l'histoire du XXe siècle. Le facteur décisif autour duquel elle gravite est d'un ordre implicite ou voilé. Elle est guidée en quelque sorte depuis les coulisses. Les totalitarismes sont le produit de l'interaction entre cet arrière-fond hétéronome et un premier plan commandé par des principes autonomes. Le premier plan, celui de la conscience des acteurs. C'est ce qui va engendrer ces formations historiques aberrantes, tératologiques, à propos desquelles nous pouvons employer à bon droit l'oxymore de religion séculière. Entendons par religion séculière, à mon sens, nous en parlions la dernière fois, des anti-religions religieuses. Anti-religion au plan conscient, autonome, religieuse au plan inconscient, hétéronome. Des formations historiques intérieurement contradictoires, puisque constitué de termes antinomiques et extérieurement antagonistes, aussi violemment ennemies qu'elles sont jumelles. Dans les religions séculières, ce n'est pas la religiosité personnelle des acteurs, y compris inconsciente, qui compte, même si de ci, de là est la fleur. Mais elle peut fort bien demeurer complètement dans l'ombre. Ce qui compte, c'est la structuration collective qui sert de modèle au projet politique. Côté communistes, marxistes, léninistes, bolcheviques, le projet conscient est celui de la réalisation pleine et entière de l'autonomie, but ultime de l'histoire humaine. Sauf que cette réalisation est visée inconsciemment par les moyens de la structuration hétéronome non reconnue pour telle. Officiellement, le programme est la réalisation d'unité collective par l'abolition de la propriété privée, qui permet l'abolition des classes, et la démocratie vraie par l'incorporation du peuple dans le pouvoir, via le parti. En pratique, cela donne une domination idéocratique sans exemple, imposant une doctrine indiscutable à l'ensemble de la vie sociale, au travers d'un parti-État, reconstituant non seulement la division de classe, mais la hiérarchie la plus rigoureuse entre ceux qui sont du côté du savoir qui commande la vie collective et ceux qui sont dans son ignorance. Cela donne en un mot la réinvention inconsciente de la forme hétéronome en langage moderne et à prétention matérialiste, au nom de la fin de l'histoire, de son accomplissement. Côté ultranationaliste, fasciste ou national-socialiste, le projet conscient est celui du retour au passé, au modèle supposément éternel et intangible des sociétés humaines contre l'égarement moderne. Le modèle de la communauté organiquement liée grâce à la domination politique et à la hiérarchie sociale. L'idée ici n'est pas celle de la fin de l'histoire, mais celle de la sortie de l'histoire comme illusion moderne. Le projet, autrement dit, est expressément celui de la reconstitution de la forme hétéronome, dont le remarquable est que la nature religieuse n'est plus comprise, comme si elle existait indépendamment du fond religieux qui lui a donné millénairement son sens. C'est en ce sens qu'on peut bien parler d'anti-religion consciente, mais inconsciemment religieuse. Cette nature religieuse de la structuration hétéronome est tellement incomprise par les acteurs qui mettent ce projet en œuvre que c'est à des moyens modernes empruntés à l'univers autonome qu'on va demander les moyens de cette reviviscence du passé hétéronome. La forme-nation, constituée d'individus, et la mobilisation plébiscitaire des masses toute chose qu'il n'est pas besoin d'être un historien très compétent pour savoir qu'elles sont radicalement étrangères à l'univers hétéronome. Mon but, encore une fois, n'est pas dans ces propos rapides de donner une analyse de ces phénomènes. Il est juste d'indiquer le principe d'une telle analyse afin de faire ressortir la puissance de ce facteur caché ou sous-jacent sans lequel ces phénomènes exorbitants sont destinés à nous demeurer opaques. L'insistance de l'implicite hétéronome a été la donnée motrice capitale de l'histoire européenne du XXe siècle. Dans ce qu'elle a de démesuré et de monstrueux. Aussi bien est-ce en regard de ce foyer brûlant qu'il faut apprécier par contraste notre situation présente. L'idée de révolution, c'est purement et simplement vidé de sens. Il n'y a plus rien de pareil, de crédible à l'horizon de nos sociétés. On peut prévoir des catastrophes, on peut prévoir l'apocalypse, mais ce n'est pas ça, une révolution. Les religions séculières elles-mêmes se sont éteintes. Elles ne mobilisent plus, à peu près plus, personne. Les masses elles-mêmes, ces fameuses masses qui font l'histoire ou qui étaient supposées la faire, se sont volatilisées. On parle de massification de l'école, mais on ne parle plus de masse en politique. Le paysage social, mental, intellectuel, idéologique dans lequel nous évoluons est complètement différent. À tout le moins, il a bien dû se passer quelque chose. Mon objet, c'est ce quelque chose. Il s'est passé, en fait, à mon sens, deux choses. Ce qui s'est passé, fondamentalement, c'est que cet implicite hétéronome a disparu. L'insistance et la prégnance de cet idéal de l'unité religieuse se sont évanouies. Cela s'est fait en deux étapes. J'ai déjà mentionné la dernière en date et la plus décisive, l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. Mais il y a eu une première étape, en amont, qu'il est essentiel de tirer de l'obscurité pour cerner avec précision les données de la situation actuelle. Cette première étape, c'est l'ébauche de régime mixte, justement, que les démocraties sont parvenues, tant bien que mal, à réaliser en se réformant après 1945. Première étape qui a permis, en fait, la seconde. On ne retient généralement aujourd'hui de la période 1945-1975, pour ce qui concerne en tout cas l'ouest de l'Europe, que le miracle économique de la phase de haute croissance dite des Trente Glorieuses. C'est oublié le miracle politique, à coup sûr favorisé par la prospérité, mais irréductible à elle, et miracle de beaucoup plus grandes conséquences à longue portée, le miracle politique qu'a constitué la stabilisation des démocraties, moyennant leur transformation en profondeur. Transformation, si on veut l'enfermer dans quelques mots, qui a fait des régimes du libéralisme démocratisé que nous avons rencontrés au début des années 1900, les régimes de démocratie libérale que nous connaissons dans l'acception rigoureuse du concept. C'est-à-dire un compromis entre des termes démocratie et libéralisme dont l'alliance ne va nullement de soi. Libéralisme et démocratisme se recouvrent dans une certaine mesure, mais ils s'opposent aussi dans une autre, comme nous aurons abondamment à le voir au cours de cette année. Stabilisation, il y a eu, et stabilisation miraculeuse, j'y insiste, quand on mesure la force des rejets dont les régimes de libéralisme démocratisé pouvaient faire l'objet. Stabilisation, il y a eu, en ceci, que les démocraties sont parvenues à apprivoiser ces divisions, ces scissions, ces contradictions qui semblaient les promettre à la mort. Et ces scissions, contradictions, divisions que les totalitarismes prétendaient abolir. Séparation de la société civile et de l'État, division de classe, extériorité du pouvoir. Les démocraties ont appris à s'en servir, en les désamorçant, pour en faire même des moyens de l'unité collective. Il faut reconnaître ce fait troublant, mais décisif. Les démocraties se sont instruites dans la confrontation avec les totalitarismes. Elles en ont relevé le défi en tirant les leçons de leur force d'attraction et en leur empruntant certains traits ou instruments soyeusement expurgés, cela va sans dire, de leurs aspects dangereux ou de leurs périls potentiels. Les démocraties ont réussi, en un mot, à trouver le passage entre l'impuissance et les divisions du parlementarisme libéral et la fausse unité et la toute-puissance illusoire des totalitarismes. Ce faisant, tâtons, par essais-erreurs, sans plan préconçu ni coordination d'ensemble médité, c'est le moins qu'on puisse dire, elles ont bel et bien bâti, sur une trentaine d'années, une ébauche de régime mixte des modernes, réalisant une articulation à peu près équilibrée entre la forme politique État-nation, l'histoire en tant qu'autoproduction de la collectivité dans la durée, et le droit au sens des fondements en droit. De nouveau, il est hors de question d'entrer dans le détail de ces réformes. De nouveau, je me permets de vous renvoyer à ce que j'en ai plus longuement écrit. C'est leur ligne générale et leur bilan que je voudrais brièvement essayer de mettre en relief. Les réformes démocratiques de l'après-Deuxième Guerre mondiale exploitent effectivement les mêmes ressources structurelles que celles qui portent les expériences totalitaires. D'où d'ailleurs les confusions auxquelles elles ont pu donner lieu. Des confusions dont le témoignage le plus retentissant est sans doute le livre de Hayek qui s'intitule « La route de la servitude », qui dépeint l'instauration de la sécurité sociale comme la porte ouverte au totalitarisme. Comme vous voyez, il n'y a pas que Sartre qui a dit des conneries. Mais ces réformes exploitent ce potentiel dont se nourrissent par ailleurs les totalitarismes pour en faire un usage exactement opposé. Ce potentiel réside principalement dans la primauté reconnue aux politiques, à la forme État-nation, en tant que refuge clandestin de la structuration religieuse et instrument de l'unité collective à ce titre. Mais, première différence et cruciale différence avec les totalitarismes, primauté organisatrice du politique sans le monopole idéocratique à laquelle cette primauté est associée dans les systèmes totalitaires. Non seulement le débat politique reste entièrement ouvert, mais il est institutionnalisé avec le conflit de classe et l'intégration des partis ouvriers dans le système politique. La philosophie tacite de ces régimes nouveaux étant le compromis des classes antagonistes. Ce mot de compromis est de manière générale le mot clé qui fait le lien entre les différentes faces de l'entreprise réformatrice et qui définit le mieux l'esprit du système de démocratie libérale qui va en émerger. À commencer par ce compromis matriciel entre deux refus. Refus de la limitation libérale des attributions du politique en matière d'organisation et de direction de la vie collective, et refus de l'extension totalitaire du contrôle politique à l'ensemble de la vie sociale. Ces réformes, la chose est bien connue, se développent pour le principal selon trois axes: l'État social, l'administration de l'économie et le fonctionnement du régime représentatif. La question sociale, comme elle s'appelait, était évidemment le premier défi à relever. Elle mettait typiquement aux prises une lecture individualiste et une lecture collectiviste du fonctionnement social, d'une manière qui paraissait sans issue. Eh bien, on a trouvé l'issue. D'un côté, le libéralisme et son attachement aux droits formels des individus, mais aussi son incapacité de répondre aux problèmes posés par les inégalités réelles résultant du jeu de ces libertés formelles. De l'autre côté, le socialisme, faisant valoir le caractère systémique de ces inégalités liées à la division de la société en classes et la nécessité, par conséquent, d'une transformation systémique, elle aussi, d'une transformation globale de la société pour la réunifier. Au péril, sur ce versant, d'une négation des droits des individus. L'État social va consister à construire un compromis. Compromis d'immenses conséquences, hein. Nous n'avons pas fini encore de les éprouver, nous le verrons. Un compromis entre individualisation et socialisation par la reconnaissance de droits sociaux aux individus. Non seulement l'État social ne prend pas en charge l'existence collective, mais le repoussoir par excellence de l'État social, c'est une assistance qui déresponsabiliserait les individus. Son rôle est de fournir aux individus les moyens de leur indépendance personnelle dans toutes les circonstances ou situations où cette indépendance est mise en péril par la maladie, l'infirmité, la vieillesse, etc., le chômage. Cela au moyen d'une redistribution étendue concernant bel et bien l'organisation d'ensemble de la collectivité et donnant forme à cette organisation. Compromis au réglage infiniment délicat, dont va finir par sortir la formule de droit complètement développée de nos sociétés. Formule de droit dont le contrat social n'est qu'un des versants qui en appelle et qui renvoie à un autre versant. Formule de droit articulant la socialisation de l'individu et l'individualisation du social. Je me borne à l'introduire pour le moment, nous aurons à y réfléchir longuement pour les conséquences qu'elle emporte. Et cette formule de droit est au cœur de nos perplexités d'aujourd'hui. La société qui se pose explicitement en droit comme produite par les individus, c'est ça le contrat social, et d'autre part, la société implicitement requise de produire les individus. J'en reviens à nos réformes de l'après 1945. Le deuxième défi à relever était celui du contrôle politique de l'économie. Donc, la terrible crise de 1929 avait établi dans l'esprit de tous d'irrévocables nécessités contre le laissez-faireisme libéral. Mais un contrôle politique devant s'exercer sur de l'autre côté dans le refus de l'étatisation totalitaire de l'économie et l'administration intégrale de l'économie. Contre la perspective révolutionnaire d'une abolition ou d'un dépassement de la séparation entre la société civile et l'État, grâce à l'abolition de la propriété privée, cette propriété privée et la séparation de la société civile est sauvegardée, comme la liberté d'entreprendre ou la liberté des rapports contractuels entre les individus. Mais dans le cadre d'une orientation d'ensemble définie par la puissance publique. Sous cette expression de contrôle politique, il ne s'agit pas simplement, comme la tendance aujourd'hui rétrospectivement est de l'y réduire, il ne s'agit pas simplement de régulariser la conjoncture économique de manière à prévenir ses hauts et ses bas cycliques. Il s'agit de piloter et de coordonner autant que faire se peut l'ensemble des activités en fonction d'objectifs collectifs. La croissance, certes, mais aussi bien, à l'intérieur de cette croissance, la réduction des inégalités, l'aménagement du territoire, la gestion des retombées de l'innovation technique, etc., etc. Bref, il s'agit fondamentalement, et au-delà de la sphère strictement économique, on ne fait pas strictement de l'économie quand on ajuste un système scolaire aux besoins et aux possibilités d'offre de main-d'œuvre par le monde économique. Au-delà de l'économie, il s'agit fondamentalement de gouverner l'histoire que nous faisons en organisant la projection de la collectivité dans l'avenir, mais cela en laissant les individus et les groupes libres d'inventer cette histoire, chacun de leur côté et pour leur compte, le politique étant le lieu de la convergence et de la coordination de ces libres activités des individus et des groupes. Cela à la différence des systèmes totalitaires qui confient le monopole de cette invention historique au parti unique en fonction de sa supposée science de l'histoire. Enfin, troisième front de la réforme, le front de la politique et du fonctionnement du régime représentatif. Compromis de nouveau. Comment remédier au dysfonctionnement du parlementarisme qui représente mal et qui ne sait pas gouverner, pour résumer? Comment remédier à ces dysfonctionnements sans tomber dans l'imposture totalitaire d'un prétendu dépassement de la représentation au moyen d'un parti encadrant l'ensemble de la population pour l'associer au pouvoir, selon une chaîne d'identification bien connue, identification du peuple et du parti, identification du parti et du pouvoir, identification du pouvoir, du parti et du leader. La réponse à ce défi va tenir schématiquement en deux transformations. Institutionnalisation du conflit de classe, j'y ai déjà fait allusion, et primauté d'un pouvoir exécutif personnalisme. Dans l'abstrait, ces formules paraissent bien éloignées de la réalité, mais vous allez voir qu'elles représentent des innovations majeures qui changent l'esprit du système représentatif. Au rebours des prétentions totalitaires de se donner pour l'expression d'un peuple uni, un peuple uni moyennant la réduction de ses ennemis au silence par des moyens variés. Au rebours de cette démarche, la démarche revient à mettre en scène, dans l'espace politique, l'antagonisme et les variations des rapports de force entre partis bourgeois et partis ouvriers. Pour faire simple, on a ainsi une représentation des forces sociales réelles entre lesquelles se partage la collectivité et les nécessaires transactions auxquelles elles sont condamnées dès lors qu'elles ont renoncé à l'objectif d'éliminer leur adversaire. On pourrait suivre d'ailleurs la gradation de cette pacification de la guerre civile froide entre des gens qui se vouent au départ aux hégémonies et à l'extermination finale, même par des moyens tout à fait pacifiques, et qui apprennent petit à petit à se dire que finalement, puisque de toute façon on ne va pas les mettre en prison, il faut bien négocier. Par ailleurs, deuxième trait, la grande faiblesse du régime parlementaire résidait dans l'instabilité des gouvernements et le relatif anonymat qui en résultait de la conduite des affaires publiques. On ne savait pas trop qui faisait quoi. Il va y être remédié moyennant une révision généralement inavouée, mais tout ce qu'il y a d'opérante, d'un point fondamental de la théorie du régime représentatif, à savoir la primauté du pouvoir législatif qui s'exprimait dans les systèmes parlementaires par, en général, dans le principe juridique de souveraineté du Parlement. Primauté du législatif, l'exécutif n'étant, comme son nom l'indique après tout, qu'une dérivée du pouvoir législatif chargé d'exécuter ou de mettre en œuvre les décisions du législateur. Sur ce chapitre, nos régimes, sans trop le dire, ont totalement changé de philosophie. Leçon là encore des totalitarismes. Le premier pouvoir représentatif, c'est l'exécutif. Il y a encore beaucoup de gens pour le nier, dans nos sociétés, en particulier dans les spécialistes de droit constitutionnel, mais c'est néanmoins comme ça. L'objet majeur des élections dans nos systèmes représentatifs, c'est de désigner le chef du pouvoir exécutif et accessoirement les députés. J'insiste sur « chef ». Le seul mot que nous ayons en français, c'est une de ces infirmités patentes. Nous sommes obligés de recourir pour désigner, en fait, ce chef au terme anglais de « leader ». Mais nous n'avons pas... qui dit un peu autre chose, et de beaucoup plus évocateur, me semble-t-il. Le chef, en l'occurrence, pour nous en tenir aux ressources infirmes de notre langue, la personnalité qui identifie et responsabilise de ce fait l'exercice du pouvoir. Voilà ce qu'est le leader en démocratie. Ça peut prendre des formes institutionnelles différentes. Dans la plupart des pays européens d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le système primo-ministériel, où on élit en même temps les députés, en même temps qu'on désigne le leader du parti majoritaire comme chef de l'exécutif, M. Cameron au Royaume-Uni ou Mme Merkel en Allemagne, bien d'autres. En France, le système présidentiel, avec du coup un problème bien français d'articulation du législatif et de l'exécutif, comme on sait. Mais sur le fond, du point de vue de la philosophie fondamentale du régime, le résultat est le même. Il est acquis, même s'il y a encore une fois des esprits tout à fait réticents à l'enregistrer, il est acquis que la représentation politique se concentre dans le pouvoir d'action et d'orientation qu'est le pouvoir exécutif, dont le pouvoir législatif est de fait un organe de traduction, car il faut bien mettre en forme de loi cette action et cette orientation. Si l'objet majeur du pouvoir est la projection collective dans l'avenir, c'est désormais par l'exécutif que passe son expression la plus adéquate. Si l'on dresse maintenant, pour conclure, le bilan de cette reconfiguration d'ensemble de nos régimes, qui fait que, sous les mêmes textes, nous vivons dans des régimes extraordinairement différents dans leur fonctionnement de ce qu'ils étaient il y a un siècle. On voit en quoi, d'abord, ces régimes méritent mieux le nom de démocratie libérale, et on voit en quoi, ensuite, ils concrétisent quelque chose qui commence à ressembler à un régime mixte. Dans le libéralisme démocratisé, le régime du suffrage universel des années 1900, la composante libérale était forte, tandis que la composante démocratique se réduisait en fait à la participation de l'ensemble des citoyens à la formation des pouvoirs par le suffrage universel. Composante tellement faible qu'elle en faisait une capacité largement illusoire, comme il était abondamment dénoncé, par rapport à un système de gouvernement qui ne gouvernait pas grand-chose. Avec cette triple réforme de l'État social, de l'État de régulation et du système représentatif, la composante démocratique comme puissance collective de se gouverner acquiert une véritable consistance. Mais d'une consistance, nous restons dans les limites d'un compromis, une consistance qui ne va pas jusqu'à étouffer la composante libérale qui entérine la dissociation de la société civile et de l'État et l'ensemble des libertés libérales, à commencer par celle de contester de manière organisée le pouvoir en place. Et il s'ensuit naturellement un débat infini sur l'équilibre de ces deux composantes, qu'est-ce qui revient à la puissance démocratique et qu'est-ce qui revient à la liberté libérale. Nous y sommes en plein. Si l'on prend les choses maintenant sous un autre angle, celui précisément du régime mixte, l'élément social historique sur lequel faisait fond le libéralisme classique, cet élément conserve toute sa place et une place ô combien essentielle dans une période de changement social rapide. C'est pas pour rien qu'on a pu parler d'une seconde révolution française comme débouché des Trente Glorieuses et une période de croissance économique sans précédent. Il n'y a pas d'étouffement de l'élément social historique. Mais cette place de l'élément social historique est balancée par le poids déterminant accordé aux politiques, tant sous les traits de l'État conducteur et organisateur, que sous les traits de la nation, trouvant la garantie de sa cohésion interne dans la redistribution sociale. Et le droit lui-même, enfin, le droit entendu, encore une fois, au sens des fondements du droit, acquiert une consistance effective, au-delà des droits formels qui faisaient dénoncer sa fiction. Il acquiert cette consistance au travers des droits sociaux et de la formule fondamentale de la légitimité qui s'y concrétise. On se trouve bien à l'arrivée devant un équilibre étant mouvant par définition, un équilibre de dimensions reconnues, chacune pour elle-même, tout en étant articulée avec les autres. Équilibre provisoire, car il suffit de l'esquisse que j'ai tracée pour mesurer le chemin que nous avons parcouru depuis lors sur toute une série de traits. Nous pouvons d'emblée formuler le diagnostic. Cette ébauche de régime mixte s'est défaite. Et nous nous retrouvons de nouveau dans une configuration de crise qui n'a rien à voir, je m'empresse de le dire, avec la précédente qui est même aux antipodes à bien des égards. Mais une configuration de crise qui repose à nouveau frais et de manière tout aussi profonde le problème de l'articulation des éléments de notre monde. C'est cette configuration nouvelle que nous allons essayer d'explorer dans la suite de notre travail.
propos de ces totalitaristes, de l'ère des totalitaristes, vous n'expliquez que sa composante forme du hyper-nationalisme et du fascisme puisse revenir, que c'est clos, enfin, il semble pour l'instant, une dimension historique, que la variante bolchevique révolutionnaire ne va pas très très bien. Mais vu la crise de l'État-nation, est-ce que au fond, cette composante, cette variante, n'est pas encore demandée?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas au sens où les attributs qui pouvaient être prêtés à la nation dans la première moitié du XXe siècle, disons, ne peuvent, de façon manifeste à mes yeux, plus l'être. Il faut... Ça n'exclut pas des autoritarismes, ça n'exclut pas des régimes plus ou moins policiers. Mais ce n'est pas la même chose qu'un totalitarisme nationaliste. Il faut d'abord, justement, il faut refaire un peu pour bien répondre à la question, il faut reprendre la chose dans l'histoire. Dans ce mot de nationalisme est égarant à souhait, parce qu'il recouvre deux choses qui n'ont strictement rien à voir ensemble, en fait. Le nationalisme comme idéologie extrême, tel qu'il émerge de façon extrêmement bien situable dans les années 1890 en Europe, et qui reçoit à ce moment-là, d'ailleurs, ce nom de nationalisme, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui nationalisme, qui recouvre le plus souvent patriotisme ou attachement simplement à la nation, parfaitement inoffensif politiquement. Le nationalisme est le produit d'une conversion de l'extrême droite à une forme politique que jusque-là elle répudiait totalement. C'est l'élément de base dont il faut se souvenir. La nation, ça était autrefois bien éclairé par Raoul Girardet dans un petit livre classique sur la question, la nation, c'est l'idée révolutionnaire, c'est la nation souveraine contre la royauté, contre la souveraineté monarchique. Et les nationalités, la cause des nationalités à travers tout le XIXe siècle, c'est la cause qui unit la gauche au sens très large de l'époque, de façon unanime. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ça, la nation du XIXe. Et par rapport à ça, la légitimité, les gens, les réactionnaires au sens exact du mot de l'époque, ou les conservateurs attachés à la légitimité monarchique, sont hostiles à la nation, qui non seulement leur paraît le fourrier de la révolution, mais qui représente un type de communauté politique qu'ils excluent, puisqu'il est fondé sur l'égalité des citoyens, contre la hiérarchie sociale qui, à leurs yeux, est la seule forme légitime d'articulation d'une collectivité. C'est précisément l'épuisement de cette légitimité monarchique, hiérarchique, organique, cléricale, tout ce que vous voulez, à la fin du XIXe siècle, qui va ouvrir l'espace du nationalisme. À l'époque, de bons observateurs ont dit, ben oui, il y a évidemment des réactionnaires, la République des Ducs en France, tout ça, mais ils sont en train de disparaître. C'est vrai, mais ils renaissent quelque chose de pire, qui vient se loger dans cette idée de nation, où cette communauté des citoyens égaux devient, dans l'esprit de gens qui l'auraient totalement réprouvé quelques décennies auparavant, le moyen de reconstruire la communauté organique dont on pensait qu'elle était liée à la hiérarchie sociale auparavant. C'est ça le tour de passe-passe fondateur des nationalismes. Et c'est ce qui va, justement, donner leur dynamique à la révolution conservatrice. Parce que, quand ils sont embarqués dans cette logique, ils deviennent aussi révolutionnaires. Ça va avec la nation. Est-ce que cette possibilité de reconstruire un ordre social traditionnel, hiérarchique, à base de domination, de communauté de sang, conserve aujourd'hui la moindre plausibilité? Est-ce qu'elle est au programme de quelque formation d'extrême droite que ce soit dans l'espace occidental? C'est un objectif qui a perdu toute signification. Je veux dire, les gens ne savent même plus ce que ça veut dire. C'est très difficile de faire comprendre aujourd'hui, y compris aux gens les plus rétrogrades du point de vue de leurs idéaux politiques, ce que pouvait être cette société traditionnelle du passé à laquelle ils affectent de prêter des vertus qu'ils ne comprennent même pas. Là, pour le coup, la coupure avec le passé est totale. Cet objectif réactionnaire n'a plus aucun sens. Deuxièmement, est-ce que la nation est en quoi que ce soit le puisse être tenu pour le moyen de réaliser cette reconstruction d'une société de type traditionnel, encore moins sous les traits qu'elle a pris. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs autour de, quels sont les thèmes autour desquels tourne aujourd'hui ce qu'on appelle nationalisme. Ça n'a rien à voir. Ça ne définit pas un modèle de société, ça définit simplement un cadre collectif auquel, pour des raisons d'anti-mondialisation d'un côté, contrôle de l'immigration de l'autre, cohésion sociale interne, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec un programme de type... Quand vous lisez Mussolini ou Hitler ou leurs épigones, c'est d'autres choses qu'il s'agit. On a complètement perdu la mémoire de ce qu'étaient ces projets totalitaires. Bon, je crois que de ce point de vue, les bases qui soutenaient la plausibilité d'un tel projet politique se sont purement et simplement effondrées. Il y a des restes, parce que les États-nations demeurent et que donc il peut se greffer des discours politiques dessus, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est dans quelque chose de complètement inédit, qu'il ne faut surtout pas rabattre sur ce passé. Je ne vois pas que d'où pourrait renaître une réactivation de ce passé, qui me semble, pour le coup, aussi révolu à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche.
En lien avec justement cette réhabilitation du pouvoir exécutif, donc la notion anglaise de leader, donc, par rapport à chef, donc leader, est-ce que c'est parce que dans leader il y a guider, et alors une notion contemporaine qui est aussi très ambiguë parce qu'il y a coach individuel, mais il y a aussi coach collectif qui peut, par exemple dans les sports, avoir une espèce d'emprise très forte sur les membres de l'équipe.
Le coach est d'abord sportif avant d'être devenu individuel. Mais s'il y a une chose dont nous manquons dans la théorie politique aujourd'hui, je prends théorie politique au sens d'ouverture à tout, pas simplement philosophie, mais ouverture à tous les aspects que les sciences sociales peuvent apporter au fonctionnement politique, s'il y a quelque chose qui manque, c'est bien... ce phénomène, l'analyse de ce phénomène du leadership. Les seuls qui l'assument vraiment, parce qu'il fait partie de leur culture d'une toute autre manière que la nôtre, sont les Américains, de nouveau. La littérature est presque entièrement américaine sur le sujet, et ce n'est pas le hasard. La tradition européenne, d'une manière ou d'une autre, c'est le chef, voire pire encore, parce que le Führer, n'en parlons pas, dans le genre, c'est plus raide. C'est la forme du commandement, c'est la forme militaire. Le commandement, c'est une fonction militaire. Alors après, elle s'exerce effectivement dans d'autres registres de la vie sociale, mais elle n'a pas d'autres modèles in fine que celui qui donne des ordres d'une manière indiscutable et comme condition de l'efficacité collective. Alors, le leader, c'est quelque chose qui émerge comme problème au XXe siècle avec les totalitarismes, dont l'un des traits qui va saisir tout le monde à juste titre, et cette espèce de délire qui se greffe sur la personne du dirigeant. Mais on s'aperçoit que c'est un phénomène beaucoup plus large, dont les totalitarismes ne représentent que la pointe paroxystique et délirante. C'est quand même là. C'est l'aspect comique des totalitarismes, disons. Lisez, il existe une anthologie dans l'archive des portraits de Staline, y compris de gens qui n'étaient pas du tout bolcheviques pour deux sous, et c'est quand même assez stupéfiant, et on se dit que ça correspond évidemment à quelque chose qu'il faut comprendre. Surtout que ce quelque chose n'a pas du tout disparu, mais s'est diffusé, démocratisé. Le leader est une figure démocratique, il est devenu totalement une figure démocratique, et quand le leader n'en est pas un, il y a un problème. On est en train de s'en apercevoir dans l'actualité française. Il en faut un minimum. Et sous un aspect démocratique. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est une question absolument essentielle. Dans la mesure où on voit bien, par exemple, que se joue un aspect crucial de la représentation. La représentation d'un groupe passe dans une certaine mesure, et que ça soit une unité de production, que ça soit un pays, ou que ça soit un courant politique, par l'identification à une personne. Pourquoi? Et quel est ce type? Qu'est-ce qui est demandé, attendu de cette personne? Et effectivement, vous avez raison, la forme dernière, de l'appropriation de cette figure du leader comme rouage normal de la vie sociale, c'est ce développement récent du coaching, y compris à l'usage strictement personnel. Pas simplement conduire une équipe dans un but d'efficacité. On ne demande pas au coach d'être un guide spirituel, mais de faire gagner son équipe ou les gens qui l'entraînent. Mais le coach individuel, ça va beaucoup plus loin. C'est un fait pour moi tout à fait étonnant, d'ailleurs. J'avoue ne pas très bien pouvoir comprendre, sur le vu des descriptions qui me sont accessibles, à quoi ça correspond au juste. Mais on a le sentiment d'une sorte de personnage de référence qui, dans toutes les situations de l'existence, peut effectivement servir de guide, non pas de modèle. C'est autre chose. Parce qu'effectivement, le leader totalitaire était à la fois un guide et un modèle. Le coach, non. Mais ça veut bien dire, justement, quelque chose de très significatif qui me demeure, pour une grande partie, mystérieux. J'avoue que je ne comprends pas trop ce qui se passe là-dedans. Mais je vois bien que nous avons là découvert... Et ce travail d'appropriation en fait foi, une dimension du rapport interhumain qu'il faut comprendre. Justement, le psychanalyste classique qui se tait substantiellement ou qui se borne à l'interprétation sur fond de neutralité bienveillante, ça ne suffit pas. Il y a autre chose. Quoi? C'est pas totalitaire, mais ça veut dire une certaine attente dans le lien humain de la référence à une personne, à une personnalité capable d'orienter, qui est un fait majeur de notre culture, qui était dissimulée en fait justement sous les formes autoritaires que ça pouvait revêtir, c'est-à-dire le confesseur vous donner l'absolution, ça rigolait pas. Je veux dire, ils pouvaient vous envoyer droit en enfer. Non, on n'en est plus là. Le chef militaire est plus... D'ailleurs, les chefs militaires ont eux-mêmes énormément changé. C'est plus le généralissime impératif. Bon, voilà. Et ça nous ramène à la question de l'autorité, en fait.
Oui. Les régimes totalitaires que l'on a appelés donc les religions séculières. Vous nous avez dit qu'elles avaient réinventé de manière manière inconsciente la forme hétéronome, par exemple le culte de la personnalité rappelant le culte de Dieu, par exemple ces grandes manifestations de Nuremberg ou des congrès du Parti communiste rappelant des sortes de messes, mais des messes païennes. Je me demande si les chefs qui ont organisé, qui ont choisi ces formes hétéronomes, n'étaient-ils pas conscients de ce qu'ils faisaient ? Je vous pose cette question parce que je me souviens que Staline sortait du séminaire, que Goebbels, qui avait organisé Nuremberg, avait eu une forte éducation catholique, qu'il avait écrit sur Judas, et que Mussolini, bien entendu, étant en Italie, avait eu une éducation extrêmement catholique. Et même pour sortir des régimes totalitaires, je me demande si quelqu'un comme le général de Gaulle, quand il organise la France libre, qu'il choisit la Croix de Lorraine, qu'il organise les compagnons de la libération, c'est-à-dire ces sortes de croisés au service de la liberté, eh bien je me demande si tous ces hommes qui sont nés dans les années 1880-90, qui ont tous eu une éducation religieuse, mais qui arrivent au pouvoir pendant la guerre ou avant la guerre, étaient-ils véritablement inconscients ?
Ma formulation était évidemment rapide. Je pense qu'elle s'applique à quelque chose de très précis. Que ces différents acteurs de l'histoire, qui avaient effectivement une familiarité culturelle avec les formes religieuses dans lesquelles ils avaient été élevés ou qui les entouraient, ça va de soi. Que de façon semi-consciente, ils aient fait appel à des ressorts de cet ordre, c'est probable. Mais ce dont je parle, c'est autre chose. Ce n'est pas les ressorts psychologiques de la croyance, de la piété populaire, etc. On a l'exemple extraordinaire qu'on a historiquement du point de vue de ce développement, c'est le culte de Lénine au lendemain de sa mort, qui échappe totalement au parti. Ils ne se rendent pas compte, ils sont d'abord absolument stupéfaits de ce qui se passe, de l'espèce de religiosité qui va se porter sur la figure de Lénine, et dans un deuxième temps, ils se disent, après tout, faut contenir tout ça, enfin, on a leur réflexion, mais c'est pas mal, ça ajoute un peu de carburant, pas inutile, allons-y. Mais ça, c'est une chose. Ce ressort religieux, oui, les rituels, les symboles. C'est le XXe siècle politique, c'est l'âge des symboles politiques. Les drapeaux, les couleurs, les uniformes, la chemise brune, la chemise noire, etc. Mais le fait profond, inconscient, lui, c'est où tout ça mène. C'est pas pareil. Le ressort, le ressort de la religiosité plus ou moins spontanée, des masses, etc., tenant à des habitus culturels, ça n'est qu'un ingrédient. Mais l'inconscient, c'est le but. C'est sur le but. Le but, c'est-à-dire la reconstruction de la forme hétéronome dans son intégralité. Et là, je pense qu'on peut soutenir qu'ils ne se rendent absolument pas compte de ça. Que non seulement ils ne s'en rendent pas compte, mais en général, ils ont une sorte d'horreur dès qu'un certain nombre de gens évoquent des hypothèses autour d'eux qui pourraient rappeler ça. Ça, on a, je veux dire, celui qui, d'une certaine manière, a le plus joué avec ça, c'est Hitler. Parce que Mussolini, il avait quand même un sérieux problème qui était la présence du Vatican pas loin, qui le gênait considérablement comme terrain de manœuvre. Et surtout que les curés italiens, ils avaient leurs idées sur la question et ils rigolaient pas sur le partage des tâches. Mais Hitler, lui, il opère avec une beaucoup plus grande liberté et on a si j'ose dire, la religiosité personnelle de Hitler et sa vision de la religion, on pourrait la détailler. Je ne connais pas d'études sur ce sujet très précises, c'est généralement très ponctuel, mais il a une horreur absolument viscérale de l'évocation seule de ce thème. Je crois que Consciemment, il la repousse de toutes ses forces. L'inconscient, il est dans la teneur du but vers lequel il est porté. Il est porté sans le savoir. Voilà. C'est à cela seulement que s'applique le terme d'inconscient. Autrement, effectivement, il est trop excessif par rapport à un usage assez cynique de ressources qui précisément ont disparu. La religiosité de la nation aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Ça ne veut pas dire que l'attachement à la nation n'existe pas, mais il n'a plus une forme religieuse. C'est très différent.
Pour revenir au phénomène de coaching individuel, vous nous disiez bien que maintenant, les acteurs, les individus, étaient chargés de l'histoire. L'histoire était descendue au niveau individuel. Ce sont les individus qui la conduisent dans leur vie quotidienne. C'est quand même une charge qui doit paraître très lourde, même si on n'en a pas conscience, puisqu'il n'y a plus d'état suffisamment visible pour indiquer l'orientation partout. Donc je suppose que, effectivement, dans cet ordre d'idées, les individus chargés à ce point
d'avoir vu
l'avenir, ont besoin de
coach. L'hypothèse est séduisante et serait convaincante si les acteurs en question se sentaient investis d'une responsabilité historique dans la conduite de leur propre vie. Et je ne crois pas franchement que ce soit le cas. Je crois qu'au contraire, c'est une sorte d'exacerbation de la dimension privée qui se joue sur ce terrain. C'est pas l'examen de conscience du matin de l'acteur historique qui se dit qu'est-ce que je vais faire de sensé dans l'histoire. C'est qu'est-ce que je peux faire par rapport aux circonstances de ma petite vie à moi tout seul. Détaché justement d'un cadre collectif et d'une responsabilité historique vécue. Alors que ça soit présent inconsciemment, c'est possible. En tout cas, c'est très loin, il faut le noter, de la conscience des acteurs. Les deux peuvent être vrais en même temps.
Dans la construction européenne et dans le traité de Rome de 1957, qui est un traité, me semble-t-il, qui est contradictoire, pas qu'il y ait des droits de mais qui va fondamentalement me semble aller à l'encontre de l'idée d'un contrôle politique de l'économie et de l'économie mixte, qui est quand même un traité qui a des articles fondamentalement libéraux.
Mais vous avez tout à fait, la question est tout à fait légitime, mais vous savez, on ne peut pas prêter, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure du général de Gaulle, on ne peut pas lui prêter une vision. On a beaucoup dit colbertiste, c'est complètement faux. Du point de vue des principes qu'il avait dans la tête, il avait une vision tout à fait libérale du fonctionnement de l'économie. Hein? Donc, soyons prudents là-dessus. C'est une articulation dont il s'agit. Mais pour revenir plus précisément au traité de Rome, c'est un traité totalement ambigu, qui est d'abord, comme tout traité international de ce genre qui se respecte, le produit de compromis nombreux. Mais ce qu'il y a fondamentalement derrière le traité de Rome, qu'on oublie toujours aujourd'hui quand on parle de l'histoire de la construction européenne, c'est le projet de construire un bloc européen de résistance à l'Union soviétique. C'est un projet de guerre froide, l'Europe. Je veux dire, on nous parle aujourd'hui de l'Europe, c'est la paix. Oui, c'est la paix entre les pays signataires pour faire la guerre à l'Union soviétique. C'est pas ça, n'a rien de pacifique. Il s'agit d'armer le continent, l'ouest du continent européen, contre l'ennemi majeur que représentent les armées du pacte de Varsovie. C'est ça le sujet. Donc, pour ça, l'impératif derrière ce traité de Rome, il y a notamment l'impulsion américaine, que là aussi, on évacue totalement du paysage, alors qu'elle est déterminante, et elle est dictée par un impératif stratégique, parfaitement intelligent. D'ailleurs, il ne s'agit pas de s'en indigner. Les Américains sont intervenus massivement en Europe de l'Ouest pour sauver l'Europe de l'Ouest de ce qu'ils percevaient comme la menace communiste avec le plan Marshall. Et ça ne suffit pas. Échec de la CED, poids persistant des régimes, des partis communistes en France, en Italie. L'un des projets, ça a été dit dans un texte de l'époque, l'une des raisons d'être de l'Europe, et chez les plus fédéralistes des gens qui la conçoivent, c'est de diluer l'influence communiste prépondérante en France et en Italie dans un bloc plus vaste où elle existera moins. Parce qu'effectivement, au Benelux, parce qu'en Allemagne, non. Donc, dans l'Europe des six, diluer le communisme et faire de ce bloc stratégique une puissance économique en état de résister au communisme et d'offrir en plus une vitrine. C'est le rôle de Berlin de façon tout à fait explicite au cœur de l'Allemagne de l'Est, mais c'est plus largement le rôle, dans la vision stratégique américaine, le rôle de l'Europe de l'Ouest. C'est offrir une force de containment face à la menace soviétique. Et donc, le libéralisme, oui, mais articulé sur un projet de puissance politique. C'est la différence, d'ailleurs, c'est la différence de base entre la perception que les Européens, encore aujourd'hui, ont du libéralisme économique et la vision qu'en ont les États-Unis. Pour les États-Unis, le libéralisme économique est le moyen de la puissance américaine. Pour les Européens, c'est le moyen de sortir de la politique. C'est deux discours qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour les États-Unis, le libéralisme économique, c'est pas un truc apolitique, c'est le contraire. C'est l'instrument du rayonnement américain, de son dynamisme. Il y a ça, tout ça est présent dans le traité de Rome, avec les arrière-pensées et les calculs des uns et des autres qui effectuent ce compromis. Mais ce que vous dites est vrai au sens de ce qui va se passer dans la durée. Oui, c'est bien ça qui va se produire. De ce point de vue-là, vous avez raison, ça va être un cheval de Troie, c'est évident. Mais c'est ce qui va se vérifier après coup. Je ne pense pas que c'était du tout dans l'intention de la plupart des promoteurs de ce traité, des forces actives qui l'ont mis sur pied. Je ne crois pas. Je pense que vraiment, il y avait l'idée, si vous voulez être compétitif face à la menace soviétique, qui est le grand problème de l'époque, enfin, on ne parle que de ça en politique. Qu'est-ce qu'on fait face aux soviétiques? Ça va d'ailleurs produire les tragédies de la décolonisation française. Ça s'explique par ça, parce qu'on ne voit pas la décolonisation, on voit le fait que les pays décolonisés vont passer du côté soviétique. D'où l'opposition à la décolonisation, dont on voit bien qu'elle est par ailleurs un mouvement irréversible, mais auquel on résiste pour des raisons stratégiques, mal comprises d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc, il faut c'est ce qui fait que quand on parle du poids du politique dans les années 50, 60, dans les années d'après-guerre, mais il est lié à une situation stratégique majeure. La guerre froide, la troisième guerre mondiale nucléaire, c'est pas une petite affaire. Si on oublie ce paramètre, on comprend rien du tout à l'histoire de l'Europe depuis 45. Ce qui est l'immense nouveauté de notre situation, c'est que non seulement ça n'existe plus, mais que la mémoire même s'en est effacée. Complètement. Et c'est flagrant dans les histoires populaires de l'Union européenne qui est présenté comme un projet parfaitement irénique, endogène, que mené par les Européens pour leur propre compte, en dehors de tout contexte stratégique, alors qu'il est le contexte déterminant.